France Inter, le 7-9.
France Inter, il est 7h50. Ali Badou, votre invité ce matin est essayiste et journaliste.
Auteur de Génération Offensée, un livre qui avait parlé beaucoup de la question des nouvelles générations, de ces nouvelles générations qui veulent censurer ce qui les gêne et ce qui les offense. On est en plein cœur de l'actualité. Bonjour Caroline Fourest.
Bonjour Ali Badou.
Vous avez écouté la chronique de Thomas Legrand sur le déboulonnage des statues, sur ce mouvement antiraciste qui a ses symboles, qui a ses gestes, qui s'en prend à des monuments parfois, qui sont dégradés, abattus parce qu'ils sont insupportables, parce qu'ils offensent justement la vie, la mémoire de ceux qui sont les plus jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous les comprenez ?
Je trouve qu'il y a plus urgent que déboulonner des statues, par exemple se mobiliser ensemble contre les violences policières, contre un racisme décomplexé qui peut amener à des brutalités, mais je comprends qu'on ait besoin de renouveler les regards, de créer de nouvelles statues, et je pense que ce serait très souhaitable d'ériger de nouvelles statues, par exemple en hommage aux héros et peut-être aussi un peu aux héroïnes des luttes pour l'émancipation. C'est un contexte là aussi très différent que celui des États-Unis. Vous voyez que des négriers, dont l'essentiel des qualités d'avoir apporté la prospérité grâce à la traite, ne soient pas rangés au musée, je comprends que ça puisse froisser. En revanche, si on se met à déboulonner toutes les statues de grands hommes qui ont tenu des propos soit racistes, soit aussi sexistes, antisémites ou homophobes, il ne restera aucune statue dans aucune ville, il n'y aura plus aucune plaque dans aucune rue.
Donc, aller jusque-là, par exemple, la statue de Colbert ou une sale Colbert à l'Assemblée nationale, pour ne prendre que ces exemples, est-ce qu'il faudrait systématiquement rappeler que Colbert était non seulement un grand homme d'État, mais qu'il était aussi à l'origine du Code noir au XVIIe siècle qui avait fixé le statut des esclaves, de leurs enfants, des métis, du châtiment corporel même des esclaves.
Mais peut-être qu'on pourrait souhaiter une époque où on sait faire les deux, où on sait rappeler l'ombre et la lumière, le clair et l'obscur. Peut-être qu'on peut mettre des plaques qui rappellent le clair et l'obscur plutôt que de tout éradiquer et purifier. C'est pas, on va pas bâtir l'égalité, le progrès de demain sur l'absence de mémoire.
Mais ça vous choque par exemple qu'il y ait encore des écoles Jules Ferry, je le dis de manière provocatrice parce que c'est l'inventeur de l'école laïque obligatoire, mais c'est un homme qui était aussi ouvertement raciste. Il avait dit par exemple qu'il faut ouvertement, je le cite, que les races supérieures est un droit vis-à-vis des races inférieures. C'est le même homme, c'est une même vie. Est-ce qu'on doit enseigner les deux en même temps ? Est-ce qu'on doit toujours rappeler la part d'ombre en même temps que la part lumineuse d'un homme ?
On doit rappeler que ses propos sur les races supérieures ont été combattus par d'autres grands républicains laïcs à l'Assemblée nationale. Et le legs que nous a fait Jules Ferry aujourd'hui, ce ne sont pas ses propos. C'est une école laïque qui permet à tous les citoyens français de grandir à égalité, de ne pas avoir classe sous un crucifix, de ne pas vivre la domination d'une religion et d'une culture sur une autre. Donc bien sûr qu'on doit continuer.
Mais qui justifiait la domination
de, souvenir.
Non, de certains sur d'autres hommes.
Il a tenu des
parce
propos.
Parce qu'il avait une couleur de peau différente.
Il a tenu des propos et il a aussi laissé un legs et des actes qui sont plus importants pour nous parce que ces actes nous permettent de grandir à égalité.
Comment expliquer que ce mouvement ne soit pas qu'un mouvement américain? On a vu donc qu'il avait des échos en Angleterre avec les mêmes gestes, les mêmes symboles. En Belgique par exemple, à travers une statue de l'ancien roi Léopold II, c'est dans différents lieux en France, dans différentes cultures, qu'on reprend pourtant ce combat sous cette forme-là.
Mais nous vivons une vraie uniformisation des luttes qui est liée évidemment beaucoup à notre nouveau mode d'entrée en politique et d'école politique que sont les réseaux sociaux. Et c'est à la fois très excitant et en même temps parfois un peu stérilisant, c'est-à-dire que le parallèle avec les États-Unis, il est constant. On est en train d'apporter une vision de la culture, de l'antiracisme et du féminisme qui n'est plus qu'américaine, dans les slogans, dans les modes de pensée. Or, nous n'avons pas exactement affaire au même mécanisme. En France, par exemple, nous avons beaucoup plus un racisme post-colonial qu'un racisme né de la ségrégation. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme, et notamment de racisme anti-noir en France ? Absolument pas. Il y a un racisme anti-noir en France. Il y a des dérapages de la part de la police. Il y a des brutalités. Il y a un problème aussi du doctrine de maintien de l'ordre. Mais on n'a pas, c'est pas du tout la même ampleur. On est en train de parler d'un contexte en France où 10 à 15 personnes meurent à cause de la police et quasiment 20 policiers meurent parce que policiers. Dans notre police, il y a des Clarissa Jean-Philippe, il y a des Ahmed Merabé ou des Xavier Jugelet qui ont été pris pour cible parce que policiers et appartenant à des minorités. Donc ça nous oblige, ce contexte nous oblige à un peu plus de responsabilité. Ça ne veut pas dire que ça nous oblige au silence. Moi, je me félicite que l'émotion créée par la mort de George Floyd nous permette d'avoir ce débat, qu'on a trop longtemps verrouillé par peur des attentats, par peur de la violence qui monte dans la société. Mais je pense que nous ne pouvons pas l'avoir dans les mêmes termes qu'aux États-Unis parce que nous sommes dans un contexte où des policiers meurent parce que policiers.
Est-ce que vous comprenez la polémique autour du film Autant on emporte le vent? Est-ce que c'est un film raciste? En tout cas, certains le pensent. Il a été retiré provisoirement de la plateforme américaine HBO Max qui vient d'être lancée. Le film va revenir avec des explications accompagnées d'une mise en contexte de l'époque. Est-ce que c'est une bonne manière de procéder ou est-ce que malgré tout, ne serait-ce que le retirer provisoirement d'un catalogue de streaming est choquant?
Mieux vaut la recontextualisation que la censure. Quand on sait que la tendance actuelle est quasiment à la purification de la culture, je pense que cette recontextualisation, c'est un moindre mal, et c'est peut-être un moindre mal nécessaire, parce qu'effectivement, Autant emporte le vent est un monument du cinéma français.
Non, pas français.
Du cinéma mondial, pardon.
Américain,
un monument du cinéma, ouais, mais mondial, c'est un des films les plus vus au monde, mais qui présente l'esclavage comme un âge d'or, même si Rhett Butler apporte un regard beaucoup plus ironique sur tout ça, même si un film ne peut jamais être résumé à une morale. Et il ne faut pas s'habituer à résumer des œuvres et des créations à simplement de la morale. Parce que ça, c'est une inintelligence de la culture qui va tous nous abêtir. Une fois qu'on sera devenu totalement bête et ignorant, on sera très raciste.
On apprend dans le journal Le Monde qu'il y avait un risque de conflit de génération en France, en tout cas c'est ce que pense le chef de l'État. L'article du Monde dit que l'affaire George Floyd est vue par le président de la République comme un vecteur au mal-être des jeunes, que le confinement y est pour beaucoup et qu'il y a une menace sécessionniste réelle au sein du pays. Justement en écho avec le passé colonial, le président de la République est cité, j'ouvre les guillemets, le monde universitaire a été coupable. Il a été responsable de l'ethnicisation de la question social en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux. Je ferme les guillemets. Que pensez-vous de cette phrase attribuée au président de la République et qui rejette la responsabilité de ce risque sécessionniste en France sur le monde universitaire?
Je ne dirais pas que ça concerne tout le monde universitaire et que c'est une question de filon, mais il y a clairement aujourd'hui à l'université une tendance à encourager un antiracisme et un féminisme plus identitaire que réellement universaliste. C'est une réalité, c'est un constat que je dresse dans mon livre « Génération offensée
oui. ».
L'américanisation de nos luttes, de nos représentations, pour le pire et pas pour le meilleur, parce qu'il y a beaucoup de choses fabuleuses aussi à importer des États-Unis. C'est pas une question dans l'absolu.
Mais vous avez travaillé sur les gender studies, sur la manière justement de rendre justice à la place des femmes dans l'histoire. Et c'est une histoire qui est née aux États-Unis. C'est une pratique universitaire qui vient des États-Unis.
Mieux que ça, moi, j'étais inspirée par les combats d'ACT UP aux États-Unis. Je suis inspirée pour le meilleur. Enfin, j'espère de garder la vitalité de cet antiracisme américain.
Mais alors, pourquoi est-ce que ça vous séduit comme démarche quand ça concerne les femmes, les minorités,
non,
mais en
tout.
L'occurrence pas celles qui concernent les études postcoloniales, par exemple.
Non, je sais, en l'occurrence, concernant les femmes, les homosexuels, comme toute minorité visible et discriminée, je pense qu'aujourd'hui, ces cursus sont nécessaires, mais doivent être plus exigeants et plus élaborés, parce qu'aujourd'hui, ils traduisent parfois, ils transmettent parfois une vision totalement caricaturale, victimaire et identitaire. Et ma grande crainte, c'est que notre problème en France, il n'est pas seulement les violences policières, ce n'est pas seulement le racisme de société, c'est que c'est la montée de l'extrême droite. Quand on favorise des concepts comme privilège blanc, lorsqu'on favorise des propagandes victimaires et identitaires, le grand gagnant derrière, politique, c'est l'extrême droite.
D'un mot, Caroline Fourest, c'est la dernière question. Est-ce que le problème, c'est le racisme ou l'antiracisme? Parce qu'à voir certains s'offusquer des antiracistes d'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont eux les principaux coupables des maux de notre société.
Mais exactement pour ce que je viens de vous dire, Alice, c'est que quand on vit dans un continent comme l'Europe où le principal problème sera que l'extrême droite un jour peut récupérer toutes nos peurs, on ne peut pas faire de l'antiracisme identitaire qui favorise la grille de lecture de l'extrême droite.
Merci Caroline Fourest. Je rappelle que Génération offensée est publiée chez Grasset. Bonne journée, merci d'avoir été l'invité d'Inter.
Merci à vous.